On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Malachie, du prophète Malachie, chapitre 3, à partir du verset 13 au verset 24. Le livre de Malachie, comme d'autres livres de la parole de Dieu, ont été écrits par des hommes qui étaient considérés, appelés au ministère de prophète. Ça ne rapporte pas forcément des histoires vécues au moment où le prophète vivait, mais c'était un regard sur l'avenir, une projection que Dieu leur donnait de ce qui allait se produire dans le temps. Nous retrouvons des écrits prophétiques dans le livre de Daniel, par exemple, mais on voit qu'il y a d'autres prophètes comme Ésaïe, qui parlera de la venue de Jésus bien des centaines d'années avant que Jésus paraisse. Et quand ces hommes de Dieu ont partagé ces paroles, moi, je me dis quel était le regard qui était le leur, de dire qu'est-ce qui va se produire dans le passé. Moi, je ne veux pas forcément le voir, mais ces choses terribles, elles vont être là. Avec quel cœur ces hommes ont partagé cette parole qui venait de Dieu, avec le soin de ne pas modifier la pensée de Dieu, mais de la donner dans sa totalité, sans rien rajouter, sans rien retrancher. Et quand on lit ce texte, c'est quand même quelque chose de particulier, parce que Dieu dit, et Dieu reprend le peuple, qui s'était en effet éloigné de lui. Mais nous pouvons prendre ce texte et aujourd'hui se dire, mais c'est un texte pour notre temps, parce que la Bible, elle demeure toujours à la page. Elle ne sera jamais un livre, excusez-moi de dire ça, poussiéreux, qui n'a plus rien à nous enseigner. C'est un livre qui a tellement de choses à nous communiquer et il nous parle d'un jour. Alors, j'ai mis comme titre du message « Le jour J approche ». On lit ensemble ? « Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées ? Maintenant, nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils en échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignaient l'Éternel et qui respectent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai, comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise, tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient, il les embrasera, dit l'Éternel des armées, et ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb, pour tout Israël, des prescriptions et des ordonnances. Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils, et le cœur des fils à leur père de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. En lisant ce texte, on est forcément interpellé par les propos de l'Éternel. Dieu dit, vous avez considéré que vous pouvez faire du n'importe quoi et que moi, je ne vois pas, je n'entends pas et je n'agis pas. Il nous est déjà certainement arrivé d'entendre dire, voire peut-être l'avoir dit nous-mêmes avant de connaître le Seigneur, mais si un Dieu existait, pourquoi autant de méchanceté? Si un Dieu existait, pourquoi autant d'injustice? Pourquoi autant de problèmes? Pourquoi autant de difficultés? Tout en étant méconnaissant de la réalité, de la vérité spirituelle, de la pensée de Dieu et de la liberté que Dieu a donnée aux hommes pour se déterminer dans leur cœur. Et d'ailleurs, on verra qu'il y a deux types de choix possibles. Pas trois, pas quatre, deux. Ceux qui marchent avec Dieu, ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Alors, il est question pour nous de faire attention à ne pas nous laisser confondre par les temps confus que nous vivons. Nos temps sont confus. De moins en moins, on se sent à l'aise dans le climat, qu'il soit social, qu'il soit politique, qu'il soit religieux, qu'il soit sous tous les aspects qu'on voit, on se dit, mais j'ai le sentiment que ça n'a plus rien à voir avec le monde que j'ai connu, où aujourd'hui les valeurs disparaissent et des choses qui n'avaient pas lieu apparaissent et deviennent de droit. Et c'est là qu'à quelque part, on sent un décalage. Et là, on peut comprendre que quelqu'un pourrait dire, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner en observant ses commandements et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel, si ceux qui ne le font pas prospèrent? En réalité, Dieu est en train de rappeler à ceux qui marchent avec lui en leur disant, perds pas courage. Ne regarde pas à ce qui peut confondre ta vision des choses, mais regarde à sa parole. Souviens-toi de la parole de Dieu. Souviens-toi de ce que Dieu a préparé d'avance. Et si d'un côté, il y a ceux qui méprisent Dieu et sa parole et se croient en sécurité, en réalité, il y a ceux qui vivent dans la révolte. Est-ce que ça répond à la réalité d'aujourd'hui? Ils vivent dans le péché, dans la méchanceté. Ils ne cherchent que leur plaisir, leur bonheur sans se soucier des autres. Ils rejettent Dieu ainsi que son Fils et sa parole. Ils refusent la vérité pour vivre et pratiquer le mensonge. Ils ont Satan pour père et leur jugement sera lié à celui de leur conducteur. N'est-ce pas? C'est la réalité. Mais il y a aussi un autre. Il y a un autre qui s'appelle le peuple de Dieu. Il y a un autre peuple qui vit dans la crainte de Dieu et qui l'entretient sa foi en Dieu. Alors il dit le texte, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et regardez, l'Éternel fut attentif et il écouta. On pourrait être étonné de tout ce que Dieu entend. Et je pense que ça devrait nous amener à réfléchir à ce que nous disons avant de le dire. Parce que nous, parfois, on pourrait être tenté de regarder autour de nous et de dire quelque chose à quelqu'un. Ah, mais tu dis rien à personne. S'il te plaît, c'est entre toi et moi. Tu ne dis rien à personne. Mais on oublie que Dieu, il entend. Est-ce qu'il y a des choses que Dieu a entendues, qui sont sorties de notre bouche et pour laquelle on a des raisons de rougir devant Dieu? Est-ce qu'il y a des choses dont on devrait avoir honte d'avoir juste pensé? Pas forcément dit, parce qu'il faut savoir que Dieu lit aussi nos pensées. Hein, avant que les paroles soient sur votre bouche, je les connais déjà. S'ils ne sont pas dans notre bouche, les paroles, elles sont où ? Là-dedans. Mais surtout, là-dedans. Et Dieu les connaît déjà. Ô Seigneur, je ne peux pas me cacher. Et ce serait une erreur de se voiler la face et de dire, ouais, mais, non. Dieu connaît toutes choses. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Entre guillemets, il est en train de dire, ils se sont entretenus de quelque chose qui valait la peine de prendre des notes. Puisque le texte dit, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Quelles sont les paroles que ceux qui craignent l'Éternel ont pu partager entre eux ? Dites-moi. Quelles sont les paroles qu'on devrait partager entre nous et qu'en réalité Dieu entend ? Quand nous sommes dans notre temps de louange, d'adoration, de prière, Dieu entend nos paroles. Dieu connaît exactement la réalité dans laquelle nous vivons. Et Dieu sait très bien la tristesse qui peut être la nôtre de voir notre monde partir dans une mauvaise direction. Aujourd'hui, la vie des êtres humains, pour certains, n'ont plus de valeur. Il ne faut pas grand-chose pour que quelqu'un décide de supprimer la vie d'un autre. Ce qui est important, c'est le bien-être personnel, peu importe le prix que ça coûte aux autres. Tant que nous, on est bien. Peu importe les conséquences de ce que nous allons faire. Peu importe ce que ça va produire. Tant que moi, je vis bien. Je lisais encore cette semaine une histoire d'un roi que Dieu avertit. Alors, vous m'excusez, je n'ai pas gardé en tête le nom. C'est en plus un nom un peu compliqué. Auquel Dieu lui dit, tu vois, fais attention parce que voici dans la direction où toi tu vas aller. Et en réalité, il va juste s'assurer que lui, il ne sera pas touché. Mais Dieu lui dit, tes enfants, ceux qui vont te suivre, voilà ce qu'ils vont vivre. Moi, ça va. Tant pis pour eux. Et je trouve que nous avons, chacun d'entre nous, cette responsabilité de dire, Seigneur, aide-moi à avoir un regard différent. Et si j'ai un regard différent, je dois avoir une pensée différente. Et cette pensée, je devrais pouvoir la partager librement, en sachant certes que Dieu m'entend, mais en sachant aussi que Dieu ne peut que se réjouir de ce qui l'entend, qui sort de ma bouche. Puisque ça va être écrit dans un livre. Waouh ! Est-ce que vous voyez, vous, comme écrivain d'un livre ? Vous vous sentez cette âme d'écrivain ? Moi non plus. Mais néanmoins, pour Dieu, nos propos ont de la valeur. Et je voudrais vous dire, à chaque fois que par vos paroles, par vos prières, par vos actions de grâce, vous communiquez une pensée de Dieu, vous communiquez pardon, un don de la part du Seigneur pour que quelqu'un soit renouvelé, encouragé, cette parole, elle est écrite dans un livre. Et Dieu se réjouit de dire, voilà, il a mis en parole ce que mon cœur a pensé. Ça veut dire que notre cœur et le cœur de Dieu sont à l'unisson. Et c'est à cela que Dieu nous encourage. Mais pour cela, il dit, ce sont ceux qui craignent l'Éternel. Apprenons-nous à parler l'un à l'autre. Apprenons à dialoguer l'un et l'autre en se disant, mon frère, ma sœur, tout ce qu'on va se dire, il faut que les oreilles de Dieu puissent les entendre sans d'un coup dire, aïe. Ça, j'aurais jamais voulu l'entendre. N'est-ce pas ? Alors, il est question où Dieu dira, et dira après ses paroles, après ce peuple qui a exprimé, certes, en disant, Seigneur, entends nos paroles. Dans le livre des Actes, il y a un moment où les disciples ont été amenés en prison. Après quoi, ils ont été jugés en leur disant, vous ne devez plus parler de ce Jésus. Vous ne devez plus annoncer cette théologie qui met de la confusion. Ils les ont frappés et les ont renvoyés chez eux. Et dit le texte, ils sont venus parmi les leurs et ils ont témoigné. Un autre sera mis en prison, Pierre. Il viendra frapper en pleine nuit et il viendra raconter ce qui lui a été dit. Et il y a une prière que l'Église va élever. Entends, ô Dieu, leurs paroles. Et il dit la parole de Dieu où eux, ils vont demander à Dieu, donne-nous de l'hardiesse pour annoncer ta parole avec puissance. Ça, c'est les paroles que Dieu voudrait entendre de notre part. Ça, c'est les paroles qui devraient résonner, être écrites et même se dire « Loué soit Dieu pour cette bonne prière, pour ces paroles empreintes de foi efficaces qui ont produit en nous ce zèle, cette volonté de dire « Seigneur, coûte que coûte, ton nom doit être glorifié. » Et parce que c'est le cas, et quand c'est le cas, alors on voit que Dieu dit « Attention, vous verrez à nouveau la différence. Si aujourd'hui on a du mal à faire la différence, parce que certaines choses, elles sont presque les mêmes. Presque. Certains disent, mais on aime tous Dieu, donc on ira tous au paradis. C'est pas ce que la Bible, elle me dit. Non ? Ce n'est pas ce que la Bible elle me dit. D'autres diront, oui, mais tu vois, on chante peut-être les mêmes chants. On peut utiliser les mêmes mots. Mais la différence, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de celui qui chante. Je me rappelle d'un monsieur qui faisait du gospel et qui était intervenu dans le cadre d'une association. Et cet homme était dérangé parce qu'à un certain moment, un pasteur était intervenu pour prêcher l'évangile. Et donc cet homme, à la fin, il vient me voir, disant « ça m'a dérangé que vous ayez arrêté mon moment de spectacle pour apporter ce que vous pensez. » Et je dois être sincère, un moment, je lui dis « vous savez, moi, ce qui me dérange, c'est que vous chantez quelque chose et surtout quelqu'un en qui vous ne croyez pas. Ça, c'est dérangeant. Je dis juste parce qu'il y a l'esprit gospel qui vous plaît, mais vous oubliez à qui ces chants s'élèvent. » Alors, un peu fâché, il est reparti. Mais ce n'est pas grave. J'espère que ces paroles ont pu l'amener à se dire, mais en réalité, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Est-ce que pour autant, parce qu'on chante un chant ou un autre, est-ce que c'est ça qui fait de nous des hommes et des femmes sauvés? La parole de Dieu, elle nous dit que ce n'est pas ça. Il y a une différence qui va se creuser entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On pourrait dire, Dieu aurait pu s'arrêter entre le juste et le méchant. Tant que je ne suis pas méchant, tout va bien. Mais ce n'est pas parce que tu n'es pas méchant que pour autant tu sers Dieu. Et Dieu, il est clair dans ce qu'il pense. Alors il est question d'un jour, un jour J, comme jugement. Verset 19, « Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et n'en laissera ni racine ni rameau. » Avez-vous déjà essayé d'enlever des roseaux ? Demain, c'est atelier jardinage à l'église. On a des roseaux à l'arrière. À plusieurs fois, les frères, ils ont essayé d'enlever les roseaux. Mais ça repousse. Vous savez pourquoi ça repousse ? Parce que tant qu'on ne va pas en profondeur pour enlever les racines, le problème demeure. Et on dit, mais on tire sur la racine. Mais il en restera toujours un petit bout. Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut enlever toute la terre. Il faut prendre et enlever cette terre, finalement, privée à ses mauvaises racines, de continuer à prospérer là où elles ne doivent pas être. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a un moment où il y aura quelque chose qui va embraser et qui ne laissera ni racine, ni rameau. Il n'y a rien qui va rester. C'est un feu dévorant. Mais s'il parle du jour J comme jugement, il parle aussi du jour J comme justice. Au verset 20, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de justice et la guérison sera sous ses ailes. » Vous savez, parfois l'injustice produit des souffrances. Accuser injustement, on peut souffrir de ça. Rejeter injustement, on peut souffrir de ça. Mal aimer, rejeter, annuler, enlever, pas accepter, pas encourager, tout ça crée des souffrances. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il se lèvera le soleil de justice. Vous savez, cette lumière de Dieu qui est claire et qui met en évidence la vérité, là où nous avons pu être peut-être accusés à tort. Mais Dieu fera que la vérité rétablira les choses et la personne qui a été dans le vrai va être élevée et celui qui était dans le mensonge va être rejeté. Mais c'est beau quand c'est Dieu qui le fait, on est d'accord. Il est question de la guérison. Et il dit, vous sortirez et vous sauterez comme des veaux à l'engrais. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Vous avez vu déjà un veau quand il se réjouit, vert pâturage, tout va bien. Ah, vous ne vous approchez pas comme ça, vous dites, s'il met un coup de sabot, hein, je vais le sentir. Mais on sent qu'il est heureux comme tout, parce que tout va bien. Ce qui l'inquiétait, ce qui lui faisait peur, n'a plus lieu d'être. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas nous qui allons faire quoi que ce soit, c'est Dieu qui œuvrera. À nous, par contre, d'apporter dans notre vie le choix qui doit être fait. D'ailleurs, il dira, « Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse que j'ai donnée à Horeb. » Il est question pour nous de faire un choix personnel. Il est en train de dire, « Retenez la vérité ainsi que ses preuves. » Souvenez-vous de la loi, des prescriptions, des ordonnances. Retenez la vérité ainsi que ses preuves. Parce que ce que Dieu dit, il le fait. Et dans la parole de Dieu, on a plein de preuves, mais la nature elle-même nous fait preuve que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Si même les hommes aujourd'hui sont arrivés à un point de technologie où... Mais est-ce que vous avez, vous, une télécommande pour choisir beau temps ou mauvais temps ? Si c'était le cas, on aurait des sacrés soucis. Je veux de la pluie. Déjà, dans un couple, deux, ils ne seraient pas d'accord. Moi, je veux du soleil pour que le linge sèche. Moi, je veux de la pluie, comme ça, je n'ai pas besoin d'arroser le jardin. Alors, qui met le linge à sécher et qui arrose ? J'en sais rien. Mais déjà, deux dans une maison, ils ne seraient pas d'accord. Et imaginez si chacun d'entre nous avait une télécommande pour la météo. Non ? Et l'autre, il dirait, mais moi, ce soir, j'aurais à cœur d'avoir la pleine lune. Romantique. Être non, moi, que ciel étoilé. Et l'autre, non, non, moi, ciel couvert. La lumière me dérange. Il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Et d'ailleurs, il y a plein de choses qu'on contrôle de moins en moins. Il y a plein de choses que Dieu nous prouve qu'en effet, l'homme n'a pas le pouvoir de tout contrôler. On peut dire des choses, on peut faire des grandes promesses, mais Dieu fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il le veut. Et ce que Dieu a dit par rapport au dernier temps, tout est en train de se réaliser. Dans les derniers temps, guerre, bruit de guerre, des pestilences, des invasions. Est-ce que tout cela, la parole de Dieu le dit ? Après, quand il est question de la vérité, Matthieu, chapitre 5, versets 17 et 18, il dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passeront, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera jusqu'à tout soit arrivé. » Alors, je nous encourage à lire la Bible. Et vous verrez qu'il n'y a pas un trait de lettre qui ne se produit pas. Il est question pour nous de reconnaître le messager. N'est-ce pas ? « Voici moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. » Dans l'évangile de Luc au chapitre 1, les versets 13 à 17, il dit ceci, Luc 1, versets 13 à 17, « Mais l'ange lui dit, sois sans crainte, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni boisson enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et il ramènera beaucoup de fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant lui avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Ce que Dieu dit, ce que Dieu nous révèle par le prophète Malachie, on le voit dans la réalité par ce que Dieu fera par Jean-Baptiste. Et il est question pour nous de préparer et disposer notre cœur. Verset 24, « Préparez et disposez votre cœur. » Est-ce que notre cœur est prêt ? Est-ce que notre cœur est disposé ? Puisqu'il dit « ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Dieu tient à la paix. Dieu bénit la paix. Dieu est heureux quand ce lien se reconstruit, mais Dieu ne supporte pas quand entre les pères et les enfants, et je parle de ça aussi dans nos relations fraternelles, il y a des choses qui coupent. Parce qu'à partir de là, pour Dieu, c'est quelque chose qui ne vient pas de lui. Est-ce que Dieu est pour l'unité ou pour la division ? Soyons clairs. Dieu ne supporte pas. La division, c'est l'œuvre de l'adversaire. Dieu travaille pour l'unité des cœurs. Et d'ailleurs, il dit, il ramène le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères. Genèse chapitre 3, versets 7 et 8, il est écrit que le péché a semé la discorde et produit la séparation. Et alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Ils se sont cachés du regard de Dieu à cause de quoi ? Du péché. Mais la volonté de Dieu, le désir de Dieu, c'est nous offrir la paix et la réconciliation. Romains chapitre 5, versets 8 à 11, « Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers qui ? » Est-ce qu'on peut le dire, « En ceci, Dieu prouve son amour envers ?» Je peux dire aussi envers moi, non ? Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Béni soit Dieu. Dieu veut offrir cette paix et cette réconciliation. Mais il y a un choix qui nous revient. Et il dira, choisis. Alors je termine par ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Pas seulement Dieu nous a réconciliés, mais fait de nous des ouvriers de réconciliation, des ambassadeurs de la réconciliation, de la paix. Car Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, sans tenir compte aux hommes de leurs fautes, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le temps coule inexorable. Ça va très vite. Quand vous pensez à votre âge, est-ce que vous n'êtes pas tenté de vous dire « ça a été quand même vite » Hein ? Oui ou non ? Et plus le temps passe, on se dit plus le temps est rapide. On n'a pas vu la semaine passer. On ne voit plus les années passer. On ne voit plus les saisons. Tout est bouleversé. Et on risque, nous, d'être complètement dans la confusion comme la nature. Si vous regardez bien, la nature est dans la confusion. Il y a des fois des animaux qui devraient être partis et qui sont restés, d'autres qui devraient rester et qui sont partis. Parce que tout est bouleversé. Mais ça veut dire aussi que tout est fait pour nous amener dans la confusion. Et Dieu, ce qu'il nous dit, ne vous laissez pas confondre. Il y a un moment où Dieu va faire et mettre les différences. Ça vous est déjà arrivé de trouver sur des journaux ces dessins où il y avait à chercher des différences entre deux ou plusieurs? Êtes-vous doué à ça? Oui? Vous prenez le temps, vous cherchez les moindres détails. Hein, il y a des choses, ça saute aux yeux, mais il y a des choses qui sont... Mais croyez-moi, Dieu voit les grands détails et voit les petits détails. Et s'il y a encore des petits détails qui ne correspondent pas à ce que Dieu attend, ces détails font qu'il y a un souci. Alors on pourrait dire, oui, mais c'est un petit détail. Mais un petit détail plus un petit détail, hein, ça devient un gros détail. Hein, où ça fait beaucoup de détails. Et si aujourd'hui on faisait le choix de dire, Seigneur, je vais paraître devant toi. Je sais qu'il y a un moment où je vais être devant ta présence. Et je désire arriver prêt. Je ne veux pas louper l'occasion, là, maintenant. Je le dis, mais souvent, excusez-moi de dire ça, on le prend avec légèreté. Mais qu'est-ce qui nous dit que demain matin, on ouvrira les yeux? Non? Qu'est-ce qui nous dit? Il n'y a que Dieu qui sait. Et si le Seigneur décidait de revenir ce soir. Sommes-nous prêts? Vraiment. Ou est-ce qu'il y a encore des choses qu'il faudrait régler? Moi, je crois que Dieu est en train de tout mettre en œuvre pour que la différence entre le bon et le méchant soit finalement évidente. Rappelez-vous de cette histoire, de cette parabole, où Jésus dira qu'un ennemi est venu pendant la nuit semer de l'ivraie. Et les serviteurs viendront voir leur maître en disant « Mais maître, ta semence, il y a un souci. » C'est facile hein, de dire « C'est ta faute. » Et le maître dira « Non, non, ce n'est pas ma semence. » Mais pendant la nuit, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Sauf que le mot d'origine n'est pas l'ivraie. C'est la zizanie. Alors ils diront, est-ce que tu veux qu'on aille enlever ? On est tous des champions pour enlever la zizanie. Hein ? Et je dirais que généralement, quand on essaie de l'enlever, on fait tomber les graines et on la reproduit. C'est pire. Mais le maître dira non, j'enverrai mes serviteurs et ils sépareront ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. À quelque part, on perd la main, on perd le contrôle. Tout ce qui nous reste, c'est le choix. Je veux être du bon blé ou je veux demeurer dans la zizanie. Je désire que mes paroles honorent Dieu et qu'elles puissent être écrites dans un livre ou qu'à un certain moment, on ferme le livre en disant « C'est bon, j'ai plus envie de les entendre. » Parce que vous savez, il y a un moment où Dieu l'a dit, hein, « Je ne vous entends plus. Vos sacrifices et vos jeûnes sont en horreur à l'Éternel. » Croyez-moi, la patience de Dieu arrive à son terme. Il ne faut pas croire que Dieu fait semblant de rien. Il y a un moment où, la parole de Dieu nous le dit, son jugement commencera par sa maison. Et si nous, autant qu'enfant de Dieu, dans nos propos, dans nos actions, mais excusez-moi, il y a des... Vous voyez, des fois, dans les films, vous entendez une tonalité, parce qu'il y a des mots qu'il ne faut pas entendre. Alors imaginez si dans vous écrivez, d'un coup, il y a un trait. Ça veut dire quoi? Quelque chose qu'il ne fallait pas entendre. À Dieu, que Dieu nous garde, à que le livre qui nous concerne, il y ait des traits. Mais que tout ce que nous puissions voir, il a choisi Jésus. Il a donné son cœur à Jésus. Sa vie a commencé à changer jour après jour. Il est tombé, mais il a demandé secours et l'Éternel l'a relevé. Il a fait confiance à l'Éternel. Il a même été un instrument de l'Éternel pour finalement amener la paix auprès des siens. Il a ramené d'autres peuples, d'autres nations à l'Éternel. Qui voudrait voir ça sur... Hein ? C'est mieux que certaines choses qu'on peut lire sur les pierres tombales. Père aimant, Marie, c'est... Parce que ça coûte de faire un... Mais vous savez, le plus beau témoignage, ce n'est pas ce qui sera écrit sur la pierre, hein. C'est ce qui sera écrit sur le livre de vie. Et celui-là, le prix, c'est celui que Christ a payé. Alors chaque mot a de la valeur. On va incliner nos têtes, on va fermer nos yeux. Et si quelqu'un voudrait saisir aujourd'hui l'occasion de dire « Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, accorde-moi finalement de ne pas arriver... à ce jour, sans avoir pris les bonnes décisions. On peut même dire, Seigneur, donne-moi de pouvoir communiquer un message d'espérance et de réconciliation autour de moi, pour ma famille, pour le conjoint, Seigneur, pour les parents, pour les enfants, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta parole, elle est certes pour nous, mais ta parole est aussi un message à transmettre. C'est quelque chose, Seigneur, qui ne s'arrête pas à nous, mais qui continue, Seigneur, à produire et à transformer des cœurs. Nous avons certes notre part à prendre, mais Seigneur, ta parole est tellement grande et puissante qu'elle ne peut pas être contenue et le message à un seul homme, mais c'est un message à l'humanité. Au fil du temps, Seigneur, tu parles, comme tu as parlé, Seigneur, à ton prophète, comme tu as parlé au peuple, tu nous parles à nous encore aujourd'hui. Seigneur, tu nous as acceptés comme tes enfants et nous avons, Seigneur, désiré faire partie de ton peuple. Alors aide-nous, Seigneur, à faire la différence de notre génération. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir ces paroles qui te glorifient, que nous soyons de ceux qui craignent l'Éternel et que nos paroles t'honorent. Seigneur, merci encore de permettre qu'aujourd'hui, des cœurs puissent prendre une décision pour toi. Et là où il y a des choses qui ne vont pas, Seigneur, toi, tu sauras comment secourir. Tu sauras comment transformer. Seigneur, c'est toi qui fais cette œuvre de réconciliation entre l'homme et Dieu par le sacrifice que tu as accompli à la croix. Seigneur, merci pour la réconciliation, Jésus-Christ. Merci pour la paix que nous avons. Merci, Seigneur, encore pour la transformation que tu produiras dans l'avenir de notre vie, Seigneur. Et qu'à toi et toi seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.